Entre les points cardinaux auxquels ma mère dédiait des appels directs, des répliques qui ressemblaient, oui, du salon à de brefs soliloques inspirés, et les manifestations généralement botaniques de sa courtoisie. Entre Seb et la rue des Vignes, entre la mère Adolphe et maître de Fourolles, une zone de points collatéraux, moins précise et moins proche, prenait contact avec nous par des sons et des signaux étouffés. Mon imagination, mon orgueil enfantin situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayon, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère. Bien que ma liberté, à toute heure, dépendît d'une escalade facile, une grille, un mur, un toiton incliné, l'illusion et la foi me revenaient dès que j'atterrissais, au retour, sur le gravier du jardin. Car, après la question « D'où viens-tu ?» et le rituel froncement de sourcils, ma mère reprenait son tranquille, son glorieux visage de jardin, beaucoup plus beau que son soucieux visage de maison. De par sa suzeraineté et sa sollicitude, les murs grandissaient. Des terres inconnues remplaçaient les enclos que j'avais, sautillant de mur à mur, de branche à branche, aisément franchis, et j'assistais aux prodiges familiers.
« C'est vous que j'entends, Seb ?» criait ma mère. « Avez-vous vu ma chatte ?»
Elle repoussait en arrière la grande capeline de paille rousse qui tombait sur son dos, retenue à son cou par un ruban de taffetas marron, et elle renversait la tête pour offrir au ciel son intrépide regard gris, son visage couleur de pomme d'automne. Sa voix frappait-elle l'oiseau de la girouette, la bondrée planante, la dernière feuille du noyer ou la lucarne qui avalait au petit matin les chouettes? Ô surprise, ô certitude! D'une nue à gauche, une voix de prophète enrhumée versait un « Non, Madame Colette !» qui semblait traverser à grand-peine une barbe en anneau, des pelotes de brume et glisser sur des étangs fumants de froid. Ou bien « Oui, Madame Colette !» chantait à droite une voix d'ange égrelé, probablement branchée sur le cirrus fusiforme qui naviguait à la rencontre de la jeune lune.
« Elle vous a entendu ! Elle passe par le lilas !»«
Merci !» criait ma mère, au jugé. « Si c'est vous, Seb, rendez-moi donc mon piquet et mon cordeau à repiquage. J'en ai besoin pour aligner les laitues. Et faites doucement, je suis contre les hortensias !»
Apport de songe, fruit d'une lévitation magique, jouet de sabbat, le piquet, quenouillé de ses 10 mètres de cordelettes, voyageait par les airs, tombait couché aux pieds de ma mère. D'autres fois, elle vouait à des génies subalternes, invisibles, une fraîche offrande. Fidèle au rite, elle renversait la tête, consultait le ciel.
« Qui veut de mes violettes double rouges ? » criait-elle. « Moi, Madame Colette !» répondait l'inconnaissable de l'Est, plaintif et féminin. « Prenez !»
Le petit bouquet, noué d'une feuille aqueuse de jonquille, volait en l'air, recueilli avec gratitude par l'Orient plaintif.
« Qu'elle sente donc bon dire que je n'arrive pas à élever les pareils !»
Naturellement, pensais-je, et j'étais prêt d'ajouter « C'est une question de climat !» Levée au jour, parfois devançant le jour, ma mère accordait aux points cardinaux, à leurs dons comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin et du fond du lit, je demande « D'où vient le vent ?» À quoi l'on me répond « Il fait bien joli, c'est plein de passereaux dans le palais royal.
Il fait vilain, un temps de saison. »
Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même, guetter la course du nuage, le ronflement marin de la cheminée, réjouir ma peau du souffle d'ouest, humide, organique et lourd de signification comme la double haleine divergente d'un monstre amical. À moins que je ne me replie haineusement devant la bise d'Est, l'ennemi, le beau froid sec et son cousin du Nord. Ainsi faisait ma mère, coiffant de cornets en papier toutes les petites créatures végétales assaillies par la lune rousse.
« Il va geler, la chatte danse !»
disait-elle. Son ouïe, qu'elle garda fine, l'informait aussi, et elle captait des avertissements éoliens.
« Écoute, Surmoutier !» me disait-elle. Elle levait l'index et se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif de rosiers. Là, elle centralisait les enseignements d'Ouest, par-dessus la clôture la plus basse. « Tu entends ?»« Rentre le fauteuil, ton livre, ton chapeau. Il pleut sur Moutier. Il pleuvra ici dans 2 ou 3 minutes seulement. » Je tendais mes oreilles sur Moutier. De l'horizon venait un bruit égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie, vannée sur ses vases verdâtres. Et j'attendais quelques instants que les douces gouttes d'une averse d'été sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l'infaillibilité de celle qu'un seul être au monde, mon père, nommait Sido. Des présages, décolorés par sa mort, errent encore autour de moi. L'un tient au zodiaque, l'autre est purement botanique. Quelques signes jouent avec les vents, les lunaisons, les eaux souterraines. C'est à cause d'eux que ma mère trouvait Paris fastidieux, car il n'était libre, efficace, péremptoire qu'au plein air de notre province. Pour vivre à Paris, me confiait-elle, il m'y faudrait un beau jardin. Et encore, ce n'est pas dans un jardin de Paris que je pourrais cueillir et coudre pour toi, sur un petit carton, les grands grains d'avoine barbue qui sont de si sensibles baromètres. Je me gourmande d'avoir égaré jusqu'au dernier ces baromètres rustiques, grains d'avoine dont les deux barbes, aussi longues que celles des crevettes bouquets, viraient, crucifiées sur un carton, à gauche, à droite, prédisant le sec et le mouillé. Sido n'avait point sa pareille pour feuilleter, en les comptant, les pelures mi-cassées des oignons. Une, deux, trois robes. Trois robes sur l'oignon. Elle laissait choir lunettes ou binocles sur ses genoux, ajoutait, pensivement, « C'est signe de grand hiver. Je ferai habiller de paille la pompe. D'ailleurs, la tortue s'est déjà enterrée. Et les écureuils, autour de la guillemette, ont volé les noix et les noisettes en quantité pour leurs provisions. Les écureuils savent toujours tout. Annonçait-on dans un journal le dégel ? Ma mère haussait l'épaule, riait de mépris. Le dégel. Les météorologues de Paris ne m'en apprendront pas. Regarde les pattes de la chatte. Frileuse, la chatte, en effet, pliait sous elle des pattes invisibles et serrait fortement les paupières. Pour un petit froid passager, continuait Sido, la chatte se roule en turban, le nez contre la naissance de la queue. Pour un grand froid, elle gare la plante de ses pattes de devant et les roule en manchons. Sur des gradins de bois peints en vert, elle entretenait toute l'année des reposoirs de plantes en pot, géranium rare, rosier nain, reine des prés au panache de brume blanche et rose, quelques plantes grasses, poilues et trapues comme des crabes, des cactus meurtriers. Un angle de mur chaud gardait des vents sévères son musée d'essais, des godets d'argile rouge où je ne voyais que terre meuble et dormante. « Ne touche pas !»« Mais rien ne pousse !»« Et qu'en sais-tu » « Est-ce toi qui en décides ?»« Lis sur les fiches de bois qui sont plantées dans les pots. Ici, graines de lupin bleu. Là, un bulbe de narcisse qui vient de Hollande. Là, graines de physalis. Là, une bouture d'hibiscus. Et non, ce n'est pas une branche morte. Et là, des semences de pois de senteur dont les fleurs ont des oreilles comme des petits lièvres. Et là... Et là... Et là... Ma mère rejetait son chapeau en arrière, mordillait la chaîne de son lorgnon, m'interrogeait avec ingénuité. Je suis bien ennuyée, je ne sais plus si c'est une famille de bulbes de crocus que j'ai enterrés ou bien une chrysalide de pan de nuit. Il n'y a qu'à gratter pour voir. Une main preste arrêtait la mienne. Que n'a-t-on moulé, peint, ciselé cette main de Sido, brunie, tôt gravée de rides par les travaux ménagers, le jardinage, l'eau froide et le soleil, ses doigts longs, bien façonnés en pointe, ses beaux ongles ovales et bombés. À aucun prix ! Si c'est la chrysalide, elle mourra au contact de l'air. Si c'est le crocus, la lumière flétrira son petit rejet blanc. Et tout sera à recommencer. Tu m'entends bien ? Tu n'y toucheras pas ! Non, maman. À ce moment, son visage, enflammé de foi, de curiosité universelle, disparaissait sous un autre visage plus âgé, résignée et doux. Elle savait que je ne résisterais pas, moi non plus, au désir de savoir, et qu'à son exemple, je fouillerais jusqu'à son secret la terre du pot à fleurs. Elle savait que j'étais sa fille, moi qui ne pensais pas à notre ressemblance et que déjà je cherchais, enfant, ce choc, ce battement accéléré du cœur, cet arrêt du souffle. La solitaire ivresse du chercheur de trésors. Un trésor, ce n'est pas seulement ce que couvre la terre, le roc ou la vague. La chimère de l'or et de la gemme n'est qu'un informe mirage. Il importe seulement que je dénude et hisse au jour ce que l'œil humain n'a pas, avant le mien, touché. J'allais donc, grattant à la dérobée le jardin d'essai, surprendre la griffe ascendante du cotylédon, le viril surgeon que le printemps chassait de sa gaine. Je contrariais l'aveugle dessein que poursuit la chrysalide d'un noir-brun bilieux et la précipitait d'une mort passagère au néant définitif. « Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans, de 10 ans. Tu ne comprends rien encore à ce qui veut vivre. » Je ne recevais pas, en paiement de mes méfaits, d'autres punitions. Celle-là m'était d'ailleurs assez dure. Sido répugnait à toute hécatombe de fleurs. Elle qui ne savait que donner, je l'ai pourtant vue refuser les fleurs qu'on venait parfois quêter pour parer un corbillard ou une tombe. Elle se faisait dure, fronçait les sourcils et répondait « non » d'un air vindicatif. « Mais c'est pour le pauvre monsieur Enfer qui est mort hier à la nuit. La pauvre madame Enfer fait peine, elle dit qu'elle voudrait voir partir son mari sous les fleurs, que ce serait sa consolation. Vous qui avez de si belles roses mousses, madame Colette. » « Mais roses mousses, quelle horreur, sur un mort !» Après ce cri, elle se reprenait et répétait « Non, personne n'a condamné mes roses à mourir en même temps que monsieur Enfer !» Mais elle sacrifiait volontiers une très belle fleur à un enfant très petit, un enfant encore sans parole, comme le petit qu'une mitoyenne de l'Est lui apporta par orgueil un jour dans notre jardin. Ma mère blâma le maillot trop serré du nourrisson, dénoua le bonnet à 3 pièces, l'inutile fichu de laine et contempla à l'aise les cheveux en anneaux de bronze, les joues, les yeux noirs, sévères et vastes d'un garçon de 10 mois, plus beau vraiment que tous les autres garçons de 10 mois. Elle lui donna une rose, cuisse de nymphe émue, qu'il accepta avec emportement, qu'il porta à sa bouche et suça, puis il pétrit la fleur dans ses puissantes petites mains, lui arracha des pétales, rebordés et sanguins à l'image de ses propres lèvres. « Attends, vilain !» dit sa jeune mère. Mais la mienne applaudissait, des yeux et de la voix, au massacre de la rose, et je me taisais, jalouse. Elle refusait régulièrement aussi de prêter géranium double, pélargonium, lobélia, rosier nain et reine des prés au reposoir de la fête Dieu, car elle s'écartait, baptisée, mariée à l'église, des puérilités et des fastes catholiques. J'obtins d'elle la permission de suivre le catéchisme entre 11 et 12 ans, et les cantiques du salut. Le 1er mai, comme mes camarades de catéchisme, je couchais le lilas, la camomille et la rose devant l'autel de la Vierge, et je revins fier de montrer un bouquet béni. Ma mère rit de son rire irrévérencieux, regarda ma gerbe qui attirait les hannetons au salon jusque sous la lampe. « Crois-tu qu'il ne l'était pas déjà avant ?» Je ne sais d'où lui venait son éloignement de tout culte. J'aurais dû m'en enquérir. Mes biographes, que je renseigne peu, tantôt la peigne sous les traits d'une rustique fermière, tantôt la traite de bohème fantaisiste. L'un d'eux, à ma stupeur, va jusqu'à l'accuser d'avoir écrit des œuvrettes littéraires destinées à la jeunesse. Au vrai, cette Française vécut son enfance dans Lyon, son adolescence parmi des peintres, des journalistes, des virtuoses de la musique, en Belgique, où s'étaient fixés ses 2 frères aînés. Puis elle revint dans Lyon et s'y maria, 2 fois. D'où ? De qui lui fut remis sa rurale sensibilité, son goût fin de la province? Je ne saurais le dire. Je la chante de mon mieux. Je célèbre la clarté originelle qui en elle refoulait, éteignait souvent les petites lumières péniblement allumées au contact de ce qu'elle nommait le commun des mortels. Je l'ai vue suspendre, dans un cerisier, un épouvantail à effrayer les merles, car l'Ouest, notre voisin, enrhumé et doux, secoué d'éternuements en série, ne manquait pas de déguiser ses cerisiers en vieux cheminots et coiffait ses groseilliers de gibus poilus. Peu de jours après, je trouvai ma mère sous l'arbre, passionnément immobile, la tête à la rencontre du ciel d'où elle bannissait les religions humaines. « Chut ! Regarde !» Un merle noir,
oxydait de vert et de violet, piquait les cerises, buvait le jus, déchiquetait la chair rosée.
« Qu'il est beau !» chuchotait ma mère.
« Et tu vois comme il se sert de sa patte. Et tu vois les mouvements de sa tête et cette arrogance. Et ce tour de bec pour vider le noyau. Et remarque bien qu'il n'attrape que les plus mûres. Mais maman, l'épouvantail...
Chut !
L'épouvantail ne le gêne pas.
Mais maman, les cerises !»
Ma mère ramena sur la terre ses yeux couleur de pluie. « Les cerises ? Ah oui, les cerises !» Dans ses yeux passa une sorte de frénésie riante, un universel mépris, un dédain dansant qui me foulait avec tout le reste, allègrement. Ce ne fut qu'un moment, non pas un moment unique. Maintenant que je la connais mieux, j'interprète ces éclairs de son visage. Il me semble qu'un besoin d'échapper à tout et à tous, un bond vers le haut, vers une loi écrite par elle seule, pour elle seule, les allumait. Si je me trompe, laissez-moi errer. Sous le cerisier, elle retomba encore une fois parmi nous, lestée de soucis, d'amour, d'enfants et de mari suspendus. Elle redevint bonne, ronde, humble devant l'ordinaire de sa vie. C'est vrai. Les cerises. Le merle était parti, gavé, et l'épouvantail hochait au vent son gibus vide.